Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nous devions évoquer Facebook, nous allons évoquer Facebook dans quelques instants, mais voilà les joies du direct, l'invité n'est pas encore là, nous n'en avons d'ailleurs pas de nouvelles de cet invité, je suis en compagnie de ma camarade Véronique Rebérotte, on va donc en profiter Véronique Rebérotte pour évoquer la situation à Notre-Dame-des-Landes. Vous avez suivi de manière attentive la situation dans la ZAD pour la rédaction de France Culture, vous avez eu l'occasion d'intervenir dans les journaux. Nous avons consacré une émission là-bas et je souhaitais en profiter pour savoir aujourd'hui quelle était la situation sur cette zone.
Écoutez, la situation, en tout cas, vous savez qu'on est dans une période d'évacuation, ce que souhaitait l'État après l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il avait été dit que l'État de droit reprendrait dans cette zone à défendre, donc occupée depuis maintenant plusieurs années par ces fameux zadistes qui ont construit là-bas des lieux de vie, donc on y était il y a quelque temps pour cette fameuse matinale à la Rolandière avec son phare, mais autour du phare, comment quand on monte sur ce phare, on peut apercevoir aujourd'hui différents lieux où les zadistes se sont installés, des lieux soit en dur, des fermes qu'ils ont repris, qui ont été dont les habitants ont été expulsés, ont quitté ces endroits eu égard avec ce projet d'aéroport qui devait se faire. Il y a aussi des squats, ce qu'on appelle des squats, des endroits qui ont été bâtis de toutes pièces, des caravanes, des yourtes, des habitats un peu plus précaires. Donc c'est aujourd'hui l'État estime effectivement que ces gens qui vivent, qui n'ont pas régularisé leur situation, doivent quitter les lieux. C'est une opération menée en ce moment. Elle doit durer quelques jours.
Vous étiez sur place. Est-ce que les scènes que vous avez observées étaient des scènes véritablement violentes? On sait que de surcroît, il y a eu un certain nombre de soucis puisque les journalistes ont été invités à quitter le terrain. Ils ont été d'ailleurs invités à quitter le terrain à la fois par les forces de l'ordre et aussi par quelques zadistes. Du coup, qu'est-ce que vous avez pu observer, Véronique? Et qu'est-ce que vous n'avez pas pu observer?
Les journalistes qui posent problème, en tout cas aux zadistes et aux forces de l'ordre, effectivement, des deux côtés, vous avez raison, ce sont ceux qui font des images, surtout. Effectivement, les images sont toujours compliquées sur la ZAD. Côté zadistes, parce qu'ils ne souhaitent pas forcément être identifiés, reconnus, parce qu'ils ont eu des soucis, déjà. Hein. Ça permet éventuellement de les reconnaître après par les pouvoirs publics. Et les gendarmes d'île, effectivement, ont proposé aux télévisions, surtout, de plutôt leur offrir des images faites par les forces de l'ordre elles-mêmes, ce qui a suscité effectivement un peu de colère et de réaction outrée de la part de nos collègues. Quand on fait juste des, comme nous, du son, ça va beaucoup mieux. Et là, on est invité. Alors parfois, il y a parfois quelques. Il faut demander. Hein, il faut demander si on peut enregistrer, si les gens sont d'accord. Mais ça a été simple, plutôt simple de faire notre travail, d'aller jusque vers les barricades, voir effectivement. Moi, j'étais le côté zadiste, des gens qui lancent soit des cocktails Molotov, des pierres, qui s'affrontent, qui avec ces gendarmes d'île, le face à face se fait de façon très rapprochée dans un nuage. Effectivement, l'air est saturé de gaz lacrymogène, mais on a pu s'approcher sans problème.
Il y a quelque chose d'étonnant. On pensait qu'il allait y avoir un dénouement pacifique dans cette situation sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, l'intervention des forces de l'ordre a surpris. N'y avait-il pas la possibilité de trouver un accord? Parce que ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est qu'on a affaire donc à une zone qui est une zone extrêmement rurale et pour cause, elle avait été évacuée de tout habitant pour construire un aéroport. Et cette zone, aujourd'hui, elle appartient à Vinci qui devait construire cet aéroport. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de conclure des baux, on appelle ça des baux amphithéotiques, avec les personnes qui occupent cette zone, exactement comme au Larzac? Pourquoi n'a-t-on pas choisi cette solution-là, Véronique Rebérotte?
L'État ne le souhaite pas. Ne souhaite pas qu'il y ait une gestion collective des terres sur Notre-Dame-des-Landes. Donc depuis la main tendue là par la préfète, Madame Nicole Klein de Loire-Atlantique, les préfètes de Loire-Atlantique, c'est aujourd'hui de dire mais on régularise, mais vous régularisez ceux qui ont des projets agricoles au sens large. L'État pourrait accepter. On sait que sur la ZAD, il y a d'autres activités que du maraîchage ou de l'élevage. Il y a aussi des gens qui brassent de la bière, qui sont boulangers, qui sont artisans tout genre, qui tannent du cuir.
C'était une zone d'expérimentation, comme on l'avait vu, dans une ambiance qui était plutôt bon enfant.
Bon enfant, mais qui, avec des gens qui ne sont pas forcément, effectivement, dans l'état de droit, qui ne payent pas forcément ce qu'il y a à payer, qui ne payent pas d'impôts, qui ne payent pas de cotisations. Donc, l'idée, c'est quand même demain que cette zone ne perdure pas pour l'État, avec ces conditions-là.
Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de les faire entrer, justement, dans la légalité?
Alors, eux le souhaitent de façon collective. Donc, là, l'État leur propose de dire, vous régularisez votre situation de façon individuelle auprès de la mutualité sociale agricole, auprès des chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture et les syndicats agricoles le souhaitent également en disant il n'y a pas de poids de poids de mesure.
Ça, on le comprend bien.
On le comprend bien. Donc, le blocage vient de
là. Pourquoi ce blocage sur la notion de collectif, collectif qui fonctionne au Larzac? Alors, peut-être que l'idée, c'était de ne pas créer un autre Larzac, même si le Larzac, c'est à la fois un très beau lieu et là aussi un lieu qui n'a pas forcément vocation à s'étendre, puisque tout le monde n'a pas forcément envie de vivre en collectivité ou en communauté, Véronique Reberotte.
Encore une fois, cette gestion du territoire, les Zadistes souhaitaient aussi avoir une gestion avec un projet de territoire et encore une fois d'une gestion qui leur appartient, enfin, où ils seraient vraiment maîtres de la situation. Donc ça, non, l'État ne le souhaite pas, d'où une incompréhension totale et encore une fois cette main tendue par l'État qui s'éloigne un peu, qui se rétracte avec une certaine radicalisation suite à la destruction aussi d'une ferme où on en connaît quelques. Ils étaient nos invités il y a quelques temps.
Il faut rappeler ce qu'est cette ferme et quelle est l'importance symbolique de ce lieu.
Ce lieu était un lieu construit alors là de toutes pièces par quelques zadistes, donc quelques occupants de la ZAD, qui a 5 ans d'existence en 2013, avec une bergerie, avec une maison, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, un étage. Enfin, ces occupants nous en parlaient hier au moment de la destruction, disant on avait une maison qu'on a construite nous-mêmes, enfin quelque chose d'assez classique. Et cette maison, en tout cas, était habitée par ce qu'on appelle sur la ZAD des pacificateurs, des gens qui étaient loin de, enfin, à la fois qui réunissaient, qui étaient dans la discussion en interne, en externe. Et il y avait, disent-ils, des discussions aussi avec la préfecture pour une régularisation de leur situation, mais encore une fois avec un projet collectif. Et cette ferme se situe non loin de la route des Chicanes, où l'État souhaitait reprendre là pour le coup oui, vous vouliez dire.
Toute effectivement possibilité de circulation. Non, juste rappeler ce qu'était la route des Chicanes, où on a donc la faculté à la fois de circuler un peu partout sur la ZAD, sauf donc sur cette zone qui est une zone, peut-être que cette route faisait 300 à 400 mètres, et là on avait tout à fait la possibilité donc de la contourner, mais effectivement les Chicanes ne cédaient pas et c'était devenu un abcès de fixation, en quelque sorte le symbole de ces éléments les plus radicaux présents sur la ZAD.
Effectivement, cette route est occupée maintenant depuis des années, en tout cas habitée sur ses bords par les éléments les plus radicaux. L'État souhaitait aussi, parce que c'est symbolique, et montrer qu'il avait repris, effectivement, prise, que l'État de droit avait été à nouveau présent sur ces ZAD, souhaitait l'ouvrir depuis quelque temps, depuis la fin de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et ça a été compliqué. Des travaux ont été entrepris, compliqués, rendus difficiles parfois, perturbé par les éléments les plus, on va dire, perturbateurs de la ZAD. Donc ça n'a pas été possible de le faire facilement. C'est une route qui a été fermée par le conseil départemental il y a plusieurs années parce que effectivement, avec des obstacles, c'est difficile de faire circuler des gens quand il y a des obstacles. Aujourd'hui, elle avait été dégagée en partie quand même depuis l'abandon de l'aéroport, avec difficulté. C'est compliqué de refaire circuler des gens. Le président du conseil départemental ne le souhaite pas, en disant que ce n'est pas possible pour l'instant. Aujourd'hui, elle est complètement, depuis deux jours, reprise en main, j'allais dire, par les gendarmes. Elle sera rouverte, mais on ne sait pas si elle peut rester ouverte, en tout cas sans présence de forces de gendarmerie.
Alors aujourd'hui, en France, c'est la troisième journée d'affrontement entre gendarmes et occupants de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Le niveau de violence est monté d'un cran. 13 gendarmes ont été blessés, une vingtaine de zadistes auraient été touchés également. Des incidents que déplorent certains élus, y compris d'ailleurs dans la majorité. François Michel Lambert, le député La République En Marche des Bouches-du-Rhône, demande une pause dans l'usage de la force. On l'écoute.
Ça peut être un gendarme qui tombe, ça peut être une personne de l'autre côté, peut-être un journaliste. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire une pause dans l'opération? Il y a eu des destructions de fermes qui produisaient du fromage. peut-être illégalement, ne le nions pas, mais il y avait le début de quelque chose. Arrêtons-nous. Il faut toujours trouver la voie de la paix dans quelque conflit que ce soit. C'est pas un conflit guerrier, mais c'est quand même un conflit. Et seul le politique, seule la paix est la bonne solution. Pas l'affrontement jusqu'à l'anéantissement de l'un qui ne sera jamais la victoire de l'autre.
La voix de François-Michel Lambert, le député La République en marche des Bouches-du-Rhône. Nicole Klein, la préfète, a tenu différents discours. Les zadistes l'accusent même d'avoir un double discours, Véronique Rebérotte.
Oui, on peut lire depuis hier soir sur une grande banderole déployée dans la ZAD, Nicole Klein m'a radicalisée. Nicole Klein, on la sent un peu gênée. Je pense qu'à la fois, la main tendue... Encore une fois, elle est dans le cahier des charges de l'État qui dit on régularisons de façon individuelle. Donc elle reste là-dessus. Il y a eu une première réunion à la préfecture le 19 mars pour avec tous ceux, chambre d'agriculture, encore une fois, représentation des syndicats agricoles et zadistes également, d'autres composantes du mouvement pour dire écoutez, on fait ce qu'on a dit. Encore une fois, tous les projets agricoles au sens large sont les bienvenus sur la zone, innovant, tout ce qui a été construit, mais encore une fois, il n'y aura pas de gestion collective de la part des zadistes de ces terres.
Mais est-ce que vous pensez qu'elle a eu deux discours successifs, peut-être contradictoires, parce que au début, elle avait plutôt un discours d'apaisement, l'idée donc de considérer qu'on n'accepterait pas un projet collectif, c'est une manière peut-être aussi de justifier l'usage de la force aujourd'hui dans un calendrier. Ludovic Piétenu, hier dans sa chronique politique, avait expliqué que le calendrier n'était peut-être pas un calendrier trouvé par hasard.
Je pense qu'elle est prise en tenaille aussi. Il y avait des pro-aéroports aussi, de tous bords, hein, sur ce dossier-là, qui souhaitent aujourd'hui, encore une fois, que la ZAD soit évacuée de ces éléments perturbateurs qui ne sont pas en situation régulière eu égard à ce que souhaite un état de droit, effectivement. Donc elle veut... Je pense qu'elle ne souhaitait pas forcément cette opération de cette façon-là, mais bon, voilà, d'autres le souhaitent au sein du gouvernement, encore une fois, influencé et sous l'influence ou la demande de différents élus, encore une fois, de reprendre pied sur cette zone.
Donc on imagine que les forces de l'ordre vont reprendre la totalité de cette ZAD, avec l'idée de rester autour, puisque s'ils ne restent pas, il y aura nécessairement un retour de certains occupants. Véronique Rebérotte, qu'est-ce qui peut arriver ensuite? Est-ce qu'il va y avoir la possibilité de faire en sorte que ces champs soient exploités? Puisque j'imagine que l'idée n'est pas de laisser tout ça en jachère.
Non, c'est difficile de le dire. En tout cas, qui va rester, qui va pouvoir exploiter, de quelle façon. C'est très compliqué aujourd'hui. Au moment où on se parle, on en est au troisième jour d'une évacuation qui devrait durer de quelques jours. Effectivement, avec des moyens côté gendarme mobile très forts, hein, très conséquents. La progression est plus compliquée que prévu, annoncée dès hier soir la préfète, justement, disant il y a des résistances. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que le dialogue peut reprendre de façon apaisée? On a un peu du mal à le penser parce que les affrontements, enfin, les zadistes disent aujourd'hui on veut plus discuter avec qui que ce soit. En même temps, ils sont pas forcément dans cette cellule de dialogue qui était montée par la préfète. C'est très très compliqué de savoir ce qui va se passer et comment tout ça va se pacifier dans les jours qui viennent.
En tout cas, Notre-Dame-des-Landes va faire date notamment parce que le projet d'aéroport a été abandonné sous l'effet donc d'une minorité active, c'est comme ça qu'on appelle ça en sciences sociales. Il y a aussi d'autres grands projets qui aujourd'hui sont des projets qui donnent lieu à des affrontements, alors ou bien des affrontements verbaux, ou bien des affrontements qui ont déjà donné lieu sur le terrain à des interventions de forces de l'ordre. Il y a le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, mais la Bure c'est une zone qui est une zone beaucoup moins peuplé que Notre-Dame-des-Landes, et puis le nucléaire donne la possibilité d'apporter des moyens importants à la région, donc les oppositions sont moins fortes, Véronique Rebérotte.
Oui, on s'est posé la question après l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, de savoir si Bure allait devenir une nouvelle ZAD, effectivement un lieu ou une zone à défendre. Effectivement, la situation n'est pas tout à fait la même, c'est un endroit, effectivement, la Meuse où la densité de population est très faible. Il y a une opposition à une installation, une maison de la résistance là-bas depuis des années, des jeunes zadistes, effectivement, qui se positionnent, mais dans ce petit bois Le Jus, qui était vraiment beaucoup plus modeste, quelques hectares au milieu de l'immensité de cette zone où seraient demain enterrés, enfouis nos déchets radioactifs les plus radioactifs, les plus dangereux, justement. Le petit bois Le Jus est évacué de façon très rapide. Je ne suis pas retournée depuis un petit moment. On peut imaginer que dans la maison de la résistance, quelques personnes sont encore là et entendent s'opposer. Mais ça ne mobilise pas au niveau national, et voire plus, parce qu'à Zad, il y a même une mobilisation internationale qui arrive. Donc le profil n'est pas tout à fait le même.
Merci beaucoup, Véronique Rebérotte, de nous avoir éclairé sur la situation à Notre-Dame-des-Landes. Dans quelques instants, nous parlerons de Facebook. Comme vous le savez, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a été entendu par le Congrès américain hier. Il a demandé pardon, il s'est excusé, mais la question des données demeure entière. Aujourd'hui, le monde, une partie du monde en tout cas, semble dépendre de l'utilisation des données privées par Facebook. Comment faire pour légiférer autour de cette question ? On en parlera aux environs de 8h20. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil si vous nous rejoignez.